Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique préférée de votre chroniqueur préféré. J'ai nommé la nouvelle émission sport de Radio Esprit Occitanie. Bienvenue dans Temps Additionnel. Au menu, aujourd'hui du football, on parlera évidemment de la clôture des 16e de finale de Coupe de France avec la désillusion violette à Rouen, mais pas que. On reviendra aussi sur la démonstration du stade à domicile en Champions Cup. Nos handballeurs bleus qui continuent leur chemin à l'Euro, nos Français en tennis nous ont aussi montré de belles choses ce week-end à l'Open d'Australie. Et il y aura aussi évidemment des nouvelles du biathlon. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter l'invité du jour, Alexandre. Bonjour Alexandre, comment vas-tu ?
Bonjour Raphaël, bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis ravi que l'on puisse discuter ensemble sur ce qui s'est passé récemment concernant le football et le rugby parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en bien comme en mal.
Alors, on reviendra vers toi très vite, grand fan du TFC, mais tu étais aussi au match du stade ce week-end et tu vas pouvoir nous raconter tes ressentis et ton point de vue sur le match. Pour commencer cette chronique, commençons par la défaite de nos violets contre les joueurs de National de Rouen, après une folle séance de pénalty où la moindre erreur, on l'a constaté, a fait basculer le match d'un côté ou de l'autre. C'est malheureusement donc le 12e tireur toulousain Soiseau qui heurte le poteau, lui qui avait ouvert le bal de cette séance. Nos Toulousains, au mental et au prix aussi de quelques confusions arbitrales, sont revenus face à des joueurs de Rouen bien en place défensivement et on sait que c'est un des points faibles du TEF cette année. Une défaite donc en 16e de finale pour le tenant du titre. On a entendu un mécontentement de la part du club de supporters. Comment vois-tu, Alexandre, cette défaite, sachant que le président Comolli nous vendait en début de saison une équipe meilleure que celle qui avait gagné la Coupe de France l'an passé ?
Eh bien, quand Comolli est arrivé pour remplacer Sadran, qui était sur le départ, il a construit une équipe qui a permis en 3 ans au TEF de passer à la Ligue 2 à promu en Ligue 1. Ensuite, on a remporté la Coupe de France, deuxième fois de notre histoire, pour à nouveau jouer l'Europa League après l'avoir quitté lors de la saison 2009-2010. Mais si je dois te comparer entre l'équipe de la saison dernière et celle d'aujourd'hui, tu vois que Comolli il a fait l'erreur de laisser partir libre des joueurs. Je pense par exemple à Branko van den Boomen et Brecht de Heugereux qui faisaient preuve d'un bon leadership et d'une expérience en Coupe d'Europe. Même s'il y a eu un travail sur le recrutement de Niklas Schmidt et Vincent Siro pour combler le vide, on a vu que hormis la performance XXL en Coupe d'Europe contre l'ASC et Liverpool notamment, on voit que depuis novembre, les joueurs ils sont dépassés de jouer plus de matchs que les saisons précédentes. Et je pense que c'est pour ça que la défense a montré pas mal de faiblesses, principalement sur le collectif, qui crée un manque de communication vers la fin et pendant les arrêts de jeu. On l'a vu surtout en Ligue 1 contre Clermont, Brest, Le Havre et Lorient.
Oui, c'est sûr, on a vu qu'un des points faibles du TEF, c'était les dernières minutes, le mental, c'est là où on voit l'absence des cadres qui étaient là l'année dernière pour tenir ce groupe et tenir surtout cette défense. Un point donc sur les matchs de Coupe de France à venir, avant de passer au sujet suivant pour les huitièmes de finale. Nice qui connaîtra son adversaire ce soir à 18h, qui affrontera soit Montpellier, pensionnaire de Ligue 1, soit Feni Olneuil, pensionnaire de National 2. On aura donc 3 rencontres 100% Ligue 1 avec le premier du championnat, le Paris Saint-Germain, qui affrontera Brest à domicile. On aura ensuite Strasbourg contre Le Havre, et pour finir, Lyon contre Lille. Les autres matchs ensuite, on aura le Puy-en-Velay, pensionnaire de National 2, qui affrontera Laval. Saint-Priest, club de National 3, qui affrontera Valenciennes. On aura Sochaux, club de National, qui affrontera Rennes, qui s'est défait de l'Ogre Marseillais en Coupe de France. Et enfin, le vainqueur du tenant du titre, Rouen, qui affrontera Monaco. Le rugby, maintenant, avec la victoire de nos stadistes, comme un symbole, il marque 31 points à 19 face à des joueurs de Bath qui, on peut dire, ont pris l'eau, surtout en deuxième mi-temps. En effet, il s'était quitté sur un 19 partout au cours des 40 premières minutes. Pour les offensives toulousaines, on a eu dès la 6ème minute l'essai du deuxième ligne Emmanuel Meafou. Après une grosse séquence des rouges et noirs, vient ensuite l'essai à la 9ème de Ramos, tel un footballeur qui va venir pousser le ballon jusqu'à la ligne d'en-but. Un essai de pénalité à la 29ème. Et en seconde période, on aura la libération et on aura l'essai du 24 à 19, et enfin, à la 77e, Ramos pour un doublé qui viendra libérer Ernest Vallon et transformer son essai pour le point du 31 à 19. Voilà pour le petit résumé du match. Alexandre, toi qui étais au match, donne-nous une impression simple et générale du match pour que tout le monde s'y repère.
Bon, alors pour tout te dire, même si l'affiche Rouen TFC était plutôt intéressante, c'était quand même une belle affiche entre le Stade Toulousain et Bath Rugby, parce que le club anglais a recruté récemment Finn Russell, le demi d'ouverture d'Écossais, connu pour avoir été en France un homme fort du Racing pendant quelques saisons, et c'est l'homme fort du 15 du Chardon, l'équipe d'Écosse pour ceux qui ne savent pas, qui est une nation qu'on a vu s'illustrer au tournoi des 6 nations et pendant la Coupe du Monde de rugby. Donc même si Bath, qui était deuxième de son groupe, est sûr de se qualifier pour les phases finales, le stade a quand même conservé sa première place en obtenant le point bonus.
Alors, on a vu en seconde partie du match un Stade Toulousain conquérant, dominateur, qui contraste avec la fin de la première période où, on va pas se mentir, on s'est fait peur. Toi, Alexandre, qui étais sur place, comment as-tu ressenti ce moment ?
Eh ben, écoute, pendant les 30 minutes de la seconde période, j'ai ressenti que le Stade cherchait des solutions face à une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer régulièrement en Coupe d'Europe. Parce qu'en parlant avec des fans de Bass Rugby, c'est une équipe qui, généralement, est pensionnaire de Challenge Cup, qui est le niveau en dessous de la Champions Cup. Donc, le fait de pas trop connaître l'adversaire, il y a eu un moment de doute. Alors que, pendant la première période, nos stadistes se sont imposés, mais Bass a eu du répondant en revenant après les offensives toulousaines. Et selon moi, je n'ai pas réellement vu une grosse domination du Stade comparée à ce que l'on a vu contre Cardiff et le club londonien des Harlequins, où là, c'était une large domination côté toulousain. Malheureusement, dans ce match, Anthony Gelon est sorti blessé et est forfait pour le tournoi Destination, qui aura lieu début février.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'atmosphère, toi qui étais juste derrière les poteaux ?
Pour te dire, c'est l'ambiance rugby. On sait qu'à Ernest Vallon, les supporters adverses sont bien accueillis. Tu les vois mélangés dans n'importe quelle tribune, avec les supporters toulousains. Il y a eu vraiment un respect mutuel entre les supporters des deux camps. Et à la fin du match, il y a les joueurs de BAFS qui ont fait le tour de la pelouse en applaudissant, sans qu'il y ait eu des sifflements ou quelconque débordement. Et pour te dire, j'étais pas seul pendant ce match. J'y suis allé avec des fans de BAFS que j'ai rencontrés par le biais d'une amie anglaise qui ont eu des retours positifs sur le Stade toulousain et le fait qu'ils ont été très bien reçus malgré la rivalité très ancré dans le monde de l'Ovalie entre Français et Anglais.
Merci Alexandre pour ton intervention. Un point d'abord sur le classement et les huitièmes de finale à venir dès le 6 avril pour nos clubs français. Le classement, on aura donc première poule, nos voisins bordelais, les Bulls, le Lyon et les Saracens qualifiés directement en Champions Cup, Connacht qui sera reversé en Challenge Cup et malheureusement Bristol éliminé de toute Coupe d'Europe. Dans la deuxième poule, c'est nos stadistes, les Rouges et Noirs, qui sont qualifiés en première place derrière les Harlequins, Bath, le Racing, l'Ulster qui sera reversé en Challenge Cup et Cardiff éliminé aussi. Pour la poule numéro 3, on aura Northampton premier du groupe avec Exeter, Glasgow Warriors et le Munster, Bayonne qui sera reversé en Challenge Cup et malheureusement Toulon éliminé. Dans la dernière poule, avec le Stade français qui sera malheureusement éliminé. Dans la poule 4, c'est Leinster qui s'est imposé devant les Stormers, devant La Rochelle et devant Leicester, Sale qui ira directement en Challenge Cup. Et le Stade français malheureusement éliminé qui pourra se concentrer sur le top 14. Un point sur les huitièmes de finale. Le premier huitième de finale sera un huitième de finale 100% français avec le Stade toulousain qui accueillera le Racing 92. Le deuxième ce sera 100% anglais avec Exeter Chiefs contre Bass Rugby. Le troisième, l'Union Bordeaux-Bègles, nos voisins qui affronteront les Saracens. Vient ensuite les Harlequins contre les Glasgow Rangers. Le Leinster accueillera les Leicester. Les Stormers d'Afrique du Sud accueillera nos Français le Stade Rochelet, les Northampton Saints accueilleront le Munster et les Bulls accueilleront nos Lyonnais. Un mot tennis aussi pour continuer ce week-end sportif. On y a cru pour nos Français en simple homme avec la victoire de Manarino en 5-7 dans ce troisième tour de l'Open d'Australie contre le 14e mondial, l'Américain Shelton. Mais malheureusement, la marche des huitièmes de finale était bien trop haute. En tombant face au numéro 1 mondial, j'ai nommé Novak Djokovic, qui l'a remporté sur le français en 3-7, 6-0, 6-0, 6-3. Même chose pour Arthur Cazaux, tombé en 3-7 face au 9e meilleur joueur de la planète. Côté filles, le dernier espoir tricolore est tombé. Océane Dodin s'est incliné en 2-7 face à la chinoise Qin Wenzheng, 12e mondial. Côté hand, ça se déroule plutôt bien en Allemagne pour nos bleus qualifiés pour la phase à élimination directe après la victoire. 28 à 35 dans le dur contre de redoutables Autrichiens lundi soir. Prochain match demain soir, le 24 janvier à 18h contre les Hongrois. On le rappelle, la dernière rencontre il y a maintenant 3 ans au championnat du monde a donné une rencontre serrée jusqu'au bout qui a donné finalement l'avantage à la France. Match à suivre donc si vous voulez voir une rencontre animée de tous les côtés. Pour finir, un point sur les championnats du monde de biathlon où les Norvégiens survolent le classement des hommes de cette édition 2024 avec 6 Norvégiens dans le top 10. Emilien Jacquelin, le premier français, est 14e, a noté tout de même le doublé des Françaises sur la Mastart femme de ce dimanche. Le classement côté femme est un peu plus positif puisque Justine Brezaz-Boucher pointe à la 2e place et n'est pas très loin en termes de points de son premier sacre mondial. Voilà, c'était tout pour cette première chronique sportive de temps additionnel. Avant de nous quitter, j'aimerais poser une question aux auditeurs et on lira vos réponses la semaine prochaine. Pensez-vous que nos stadistes iront chercher la 6e étoile cette année ? On attend vos avis. En tout cas, merci à toute l'équipe et merci à Alexandre d'avoir intervenu. On espère te revoir très vite.
Merci beaucoup Raphaël, c'était un vrai plaisir de participer et de discuter avec toi dans cette première émission.
Ce fut aussi un plaisir. En attendant, prenez soin de vous, c'était Raphaël pour Radio Esprit Occitanie. À la semaine prochaine.